Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je reçois Aline Thomas, qui est journaliste et fondatrice de La Grosse Asso. Bonjour Aline.
Bonjour Juliette.
Est-ce que tu peux te présenter, parce que là je t'ai vraiment présenté succinctement, mais est-ce que tu peux te présenter à mon audience ?
Alors oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Aline, je suis journaliste, je suis réalisatrice, je fais des documentaires et je suis aussi la cofondatrice de La Grosse Asso, qui est une association de lutte contre la grossophobie. Alors, j'ai fondé cette asso avec mon amie Lola Cesse. Quoi te dire d'autre, je sais pas. C'est principalement mes deux activités du moment qui me prennent énormément de temps.
Ah bah oui, carrément, je veux bien te croire. D'ailleurs, pour tes documentaires, tu as réalisé donc Grosse, le poids de la réussite, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est un documentaire que j'ai réalisé l'année dernière. Ça faisait plusieurs années en fait que je voulais réaliser un documentaire pour parler de grossophobie, pour parler aussi de la place de la réussite des femmes grosses dans la société. Et puis je trouvais pas le bon angle. Enfin voilà. Et puis il y a eu un concours de circonstances. Enfin il y a eu un événement. Je sais pas si on doit en parler maintenant, si on en parle plus tard, mais il y a eu un événement qui a fait que je me suis décidée, j'ai eu une occasion, et puis je me suis dit, allez, voilà, c'est maintenant.
Donc, d'accord.
Je te raconte ce qui s'est passé, mais en fait, en janvier 2020, il y a une chaîne nationale qui a diffusé un programme qui proposait à des personnes grosses, obèses, de se faire opérer pour avoir une vie... ensuite une vie meilleure et une vie incroyable. Et en fait, j'ai été très choquée par cette série de documentaires, enfin de reportages, parce que ça m'a ramenée à quelque chose d'assez horrible, à savoir que forcément, si tu es une personne grosse, ta vie sera forcément un échec. Et dès que tu deviendras une personne mince, ben, ta vie sera forcément formidable. Et je me suis dit, c'est hallucinant d'être en 2020 et que sur une chaîne publique, on continue encore à véhiculer en fait, ce genre de clichés assez terribles et assez culpabilisantes pour les personnes grosses. Et donc, je me suis dit, après avoir chouiné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, je suis allée demander un droit de réponse à la chaîne qu'on m'a accordé. Et du coup, j'ai eu la possibilité de faire ce documentaire qui s'appelle « Grosse, le poids de la réussite ». Site et qui en fait où je suis allée interviewer 8 femmes de ma génération, grosses et qui ont réussi à des endroits où d'habitude on ne voit pas de femmes grosses. Voilà, c'était très important pour moi de montrer que le poids est pas limitant et que si on a envie de faire quelque chose, même si la société nous accorde pas toujours la place ou n'admet pas toujours que des personnes grosses aient accès à ces endroits-là, en fait on a tout à fait le droit de tenter d'y accéder, quoi.
D'accord. Je pense qu'on reviendra un petit peu après sur le documentaire. Mais ce documentaire-là, c'est après que tu aies fondé l'association La Grosse Asso ?
Non, en fait, c'est avant, c'est juste avant. C'est-à-dire que j'ai fait ce documentaire. D'accord. Et pendant ce documentaire, en fait, il s'est passé un truc assez... on en parlera tout à l'heure, mais il s'est passé un truc assez dingue, c'est que... Je me suis rendu compte surtout qu'il y avait quelque chose d'assez mécanique, en fait, dans le parcours des femmes grosses. Et le fait que je me rende compte quelque chose de mécanique a fait que ça a touché beaucoup de gens. Et le fait que ça touche beaucoup de gens, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et avec Lola, vu qu'on a reçu beaucoup de messages, on s'est dit, on va peut-être créer une structure et puis voir comment ensemble on peut réfléchir à essayer de faire changer un petit peu les choses. Donc la grosse asso est arrivée, le documentaire a été diffusé en mars et on a créé l'association en octobre.
Ok, super, d'accord. Ouais, donc le documentaire, ouais, c'est vraiment la genèse de la grosse asso, du coup, de l'association.
Exactement. C'est ce qui a vraiment fait naître, en tout cas, la vision assez... l'envie d'être ensemble pour faire quelque chose. Et voilà, on s'est rendu compte que le collectif, c'était quand même assez puissant.
Parce que Lola, elle est dans le documentaire, hein, c'est bien ça.
Oui, Lola est dans le documentaire, exactement.
Elle fait partie du groupe Les Coquettes, si je dis pas de bêtises.
Elle fait partie du groupe des Coquettes, ouais.
Ouais, super, ok. Et tu l'as vraiment rencontrée à l'occasion de ce documentaire ou est-ce que tu la connaissais avant déjà ?
En fait, on s'était croisés dans le boulot parce que moi, j'ai eu l'occasion de l'inviter plusieurs fois dans les émissions pour lesquelles je travaillais. Et puis, voilà, on s'était croisés, on se voyait un peu de loin, mais on ne se connaissait pas vraiment. Et puis, pendant le confinement, comme plein de gens, on s'est mis à faire des trucs qu'on ne faisait jamais. Et une de mes amies, qui s'appelle Marine Bausson, a organisé des cours de pilates avec une de ses potes qui était prof de pilates et qui voulait se spécialiser dans le sport pour les personnes grosses. Et donc, elle nous a toutes appelées, Marine est très amie avec Lola, elle nous a dit « Voilà, j'organise un cours en ligne de pilates avec ma pote Ingrid et tout. » Et on s'est retrouvés à 10 femmes grosses à faire du pilates pendant le confinement, dont Lola. Et on se faisait bien marrer mutuellement à travers nos écrans d'ordi. Et puis, quelques mois après la sortie du confinement, j'ai voulu faire mon film. Et en fait, ça a été assez très naturellement. En fait, j'ai appelé Lola. Et puis, en fait, voilà, ça a commencé comme ça. Et après, on s'est plus quitté.
Ok, d'accord. Et les autres femmes, du coup, qui sont dans ce reportage, dans ce documentaire plutôt, comment tu les avais rencontrées? Comment tu as décidé, en fait, de faire appel à elles, etc.?
Alors, pour une majorité, ce sont des femmes avec qui je suis amie. Marine Bausson, évidemment, je suis amie avec elle. Lola, je suis devenue amie avec elle. Lisa, je l'ai rencontrée, je la voyais sur France 5, dans le journal de la santé.
Lisa d'Happy Feet.
De Happy Feet, voilà. Ouais. Et puis pareil, ça a matché tout de suite. Les autres, j'ai passé beaucoup j'ai enquêté quand même assez longtemps parce que je voulais savoir s'il y avait un truc générationnel. Je voulais savoir. Moi, j'avais des convictions en fait personnelles par rapport à mon parcours de vie, mais j'avais besoin en fait de faire beaucoup d'interviews pour savoir ce que les autres femmes grosses vivaient. Et donc, les rencontres des autres femmes qui sont dans mon doc, c'est des rencontres. Après une enquête, après en avoir interviewé énormément, je me suis dit. Ce sera elle. Voilà.
D'accord. Et pourquoi, du coup, avoir voulu faire ce documentaire? Pourquoi ce moment-là? Pourquoi aussi... est-ce que tu parlais déjà de grossophobie d'une autre manière? Enfin, comment c'est venu?
En fait, non, je parlais pas de grossophobie. En tout cas, je parlais très rarement de moi et en fait de mon rapport à la grossophobie. En tout cas, j'avais un rapport personnel, mais ça ne faisait pas partie de ma vie sociale. C'est-à-dire que j'avais jamais parlé du fait, j'avais presque même jamais conscientisé que le fait d'être une femme grosse dans l'univers dans lequel je travaillais, j'évoluais, mes amis, ma famille et tout ça, j'avais pas forcément conscience que ça me définissait, en tout cas. Et puis, il y a quelques années, j'ai monté une entreprise, en plus de mon travail de journaliste, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Bonjour Gisèle et qui fait des patrons de couture pour les grandes tailles. J'ai toujours cousu, je me suis toujours fait mes fringues et tout. Et là, ça a commencé à germer. En fait, j'ai commencé à me dire, en faisant des salons avec cette entreprise, le fait de vendre des patrons à des femmes grosses, je commençais à avoir des retours et je commençais à me dire, ça commençait à, moi, me faire réfléchir sur mon lien à mon propre corps, en fait, et sur le fait que, en fait, j'avais peut-être dépassé certaines montagnes. Il y a des choses que j'avais pas forcément conscientisées, j'avais pas forcément pris conscience, en fait, que j'avais dû me battre plus que les autres. Parce que à côté de ça, j'avais été stigmatisée très tôt pour mon corps, mais pour mes parents, c'était pas un sujet que je fasse des études, par exemple, c'était pas un sujet. Ils m'avaient toujours dit que j'étais intelligente, que je pouvais faire ce que je voulais. Donc en fait, le fait d'être grosse, c'était une petite partie de moi, mais ça ne représentait pas. Je sais pas si c'était du déni ou si c'était le fait que ça prenait une toute petite partie. En tout cas, le fait de faire mon entreprise et de rencontrer d'autres femmes grosses, ça a fait germer des choses en moi, ça m'a rappelé des choses et je me suis aperçue qu'en effet, j'avais fait du chemin et que j'avais sûrement dépassé des montagnes parfois plus importantes que d'autres personnes qui avaient un corps plus normé. Et voilà, donc ça a été du coup, réfléchir à ça, ça te met dans un truc d'introspection personnelle qui fait que t'es plus sensible à tout ce qui t'entoure et dès qu'il commence à y avoir des choses un peu grossophobes ou du corps, d'un seul coup tu te les appropries un peu plus, tu vois, ton cerveau il fait comme ça, il dit que t'as une petite lumière allumée sur un truc, et d'un seul coup tu vas voir toutes les choses qui concernent ce sujet-là. Et puis, est arrivé du coup, j'étais en introspection, je te parle pas du confinement qui fait qu'on a tous un peu réfléchi sur nous-mêmes et sur notre nombril depuis notre canapé. Et puis, est arrivée cette émission sur M6, et là, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un starter, et puis après, il a fallu faire le travail. Et l'autre partie documentaire, c'est que moi, je raconte aussi mon histoire à travers ces interviews et à travers les histoires de ces autres femmes. Je m'englobe en fait dans le film et dans la mécanique à laquelle j'appartiens aussi. Et ça, c'était, pour moi, ça a été très chamboulant et salvateur. Je ne sais pas si ça se dit chamboulant d'ailleurs.
Mais... ah, mais on comprend.
Mais du fait de me dire que déjà, je n'étais pas seule. Enfin, ouais. Je voyais que en fait, j'avais longtemps été persuadée que le fait d'être grosse, c'était ma faute en fait, et ça n'appartenait c'était que des décisions qui n'appartenaient qu'à moi, qui avaient fait que j'avais ce parcours-là et que j'avais un corps gros. Et en faisant ce film avec toutes ces femmes, on s'est toutes aperçues en même temps que y avait plein d'éléments extérieurs qui faisaient qu'on était coincé à des endroits et que c'était très difficile d'échapper au fait de devenir grosse parce qu'on appartenait à un système, en fait. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais...
Du coup, toutes ces prises de conscience-là, elles se sont faites pendant le documentaire ou est-ce que... Enfin, comment t'as cheminé chez toi cette réflexion, en fait ?
Elles se sont faites... J'ai eu des grosses prises de conscience pendant le documentaire. C'est-à-dire qu'avant, moi, je pense que quand j'ai commencé le documentaire, j'avais quand même j'avais 38 ans déjà. Donc j'avais eu le temps déjà de réfléchir sur moi-même, qui j'étais. Et puis je savais quels étaient les endroits qui me blessaient, le fait d'avoir des difficultés à t'habiller, à trouver des vêtements, le fait de parfois ne pas oser faire certaines choses parce que t'as peur qu'on se dise « Ah là là, tout le monde va me regarder », enfin, tu vois, des choses un peu idiotes quand t'as pas complètement confiance en ton corps. Ça, c'était quelque chose qui faisait partie de ma vie, mais j'avais décidé que ça n'allait pas me déranger. Et le fait de travailler sur ce documentaire, ça m'a obligée, je me suis forcée, en fait, à me remettre dans des situations d'adolescence, d'enfance, mais avec mon regard d'adulte. Donc, évidemment, j'avais une lecture différente. Et puis, le miroir des autres histoires qui étaient très similaires aux miennes dans la mécanique et d'entendre les autres raconter leur histoire et de voir que à plein de moments pendant les interviews du documentaire, j'avais de la peine. Ouais. J'avais de la peine de voir qu'elles avaient traversé tout ça. Et en fait, le fait de voir qu'elles avaient traversé tous ces moments super douloureux de moquerie à l'école, de régime obligatoire, de se rendre compte que quand elles te racontent que voilà, elles étaient persuadées qu'elles n'avaient pas assez de valeur parce que vu qu'elles étaient grosses, elles avaient moins de valeur. C'est ce que tu retiens quand même de ton adolescence quand on te dit il faut que tu maigris sinon tu vas rater ta vie. Et le fait de le voir chez les autres et de savoir que moi je devais être à la hauteur de leurs paroles en racontant mon histoire en fait, ça m'a mise dans un truc où je me suis dit putain mais en fait j'ai eu de la peine pour moi en fait d'un seul coup. C'est-à-dire que je me suis dit ah ouais en fait c'est pas cool ce qui t'est arrivé non plus. Même si t'as avancé, même si on a tout avancé, le fait de l'entendre chez les autres, j'ai été obligée de me mettre le nez dans ma propre histoire. Et ça, y a un avant et un après, clairement.
Parce que t'avais conscience quand même de... Enfin, parce que tu disais que, au final, t'as eu l'impression d'avoir quand même une éducation et une enfance, pas forcément que sur le prisme de ton poids, et t'as pas eu la sensation forcément que tes parents faisaient différemment au vu de ton poids, etc. Du coup, est-ce que t'as vécu d'autres éléments aussi en ton enfance qui grossophobes, mais que t'as vu quand tu l'as vécu, ou est-ce que c'est vraiment toujours après coup que tu t'es dit « Ah, mais ça, en fait, c'était grossophobe, et ça... Ça m'a peut-être freinée, etc. »
Alors, en fait, je te dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai relu mon histoire, même mon enfance et mon adolescence. C'est-à-dire que il y a encore 3 ans, je t'aurais dit, j'ai eu une enfance très heureuse, j'ai manqué de rien, mes parents voulaient le meilleur pour moi. Et puis, quand tu commences à rentrer dans les détails, tu te rends compte que, j'ai été au régime très tôt. En fait, sur mon carnet de santé, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on commence le documentaire, c'est qu'en fait, on a toutes pris notre carnet de santé. Et en fait, moi, sur mon carnet de santé, il est écrit, à l'âge de 5 mois, surveiller le poids. Parce que je frôle, en fait, le haut de la courbe. Et en fait, ça commence là, et je me dis, putain, à 5 mois déjà, on commence à faire attention à mon alimentation. Les parents, qu'est-ce qu'ils font quand le médecin leur dit attention, faut surveiller, déjà ils le prennent pour eux en se disant on s'occupe mal de notre enfant et puis on va faire attention. Donc en fait les parents, quand ils commencent à rentrer dans ce truc de restriction alimentaire ou en tout cas de surveillance du poids, c'est parce qu'ils veulent le bien, c'est de l'amour en fait, parce que le médecin a dit, et qui n'écoute pas le parent, surtout qui n'écoute pas le pédiatre en fait. Et en fait, c'est comme une petite musique. C'est-à-dire que moi, ça a fait partie de mon adolescence. Le fait de me dire, ok, bon, ben, les parents, ils veulent ton bien, mes parents, ils veulent mon bien, ils veulent que je réussisse dans la vie, ils me disent de faire attention à ce que je mange, ils me disent de surveiller mon poids. Dès que tu fais un écart, tu te fais engueuler, donc c'est culpabilisant. Et en fait, voilà, c'est des petites marches comme ça, accompagnées de la petite musique, où finalement, ça te ruine pas une adolescence. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Moi, j'ai pas été harcelée à l'école, on m'a pas traité de grosse vache. Enfin, tu vois, j'ai eu cette chance-là, parce que je sais que c'est pas le cas de plein d'enfants gros et d'adolescents gros. Mais il y a eu quand même cette petite musique qui touche à ta personnalité et qui modèle ta personnalité. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Et je l'ai vraiment pris dans la gueule en faisant mon film. Ça, c'est une certitude, en me rendant compte que, en fait, si c'est important, parce que toutes ces étapes, en fait, à l'adolescence, d'image de soi, de construction de soi, de s'apercevoir, en fait, de prendre conscience de la valeur que tu as, du fait que ton propre corps t'appartient et que, en fait, les autres n'ont pas le droit d'avoir, ne doivent pas être intrusifs sur ton corps. C'est-à-dire que quand tu es une personne grosse, c'est comme si ton corps ne t'appartenait pas. C'est-à-dire que tout le monde a un avis. C'est comme si t'étais ton corps physiquement, en fait. Enfin, physiquement, c'est comme si tu représentais une somme de mauvais choix. Et ça veut dire que les gens, quel que soit ton âge, en fait, que tu sois petit, ado, adulte et tout, les gens, même les gens qui te connaissent pas, alors c'est pire les gens qui te connaissent, mais les gens qui te connaissent pas, ils se disent « Ah, je connais un bon régime. Ah, tu devrais faire attention. Attention à ta santé, attention à tes genoux, si tu veux faire ça, si tu veux faire tel métier. » Et en fait, c'est comme si d'un seul coup, l'intimité, tu n'avais pas le droit à l'intimité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est comme tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ton corps. Et ça, en fait, il faut être adulte, et faut faire un travail sur soi, en fait, mais te rendre compte qu'avoir un avis sur ton corps permanent, un jugement sur ton corps permanent, c'est abîmer ton droit à l'intimité, en fait. Et que cette chose-là, en fait, elle arrive très tôt, quand on surveille ton poids. Et que ça a des conséquences qui sont, j'allais dire, importantes, mais maintenant, je peux te dire, graves, sur ton rapport au corps et sur ta sensation d'être quand tu deviens adulte. C'est-à-dire que quand tu n'as pas cette notion d'intimité, en fait, pour des gens, quand en plus la vie se passe, et tu t'aperçois qu'en fait, c'est très important dans plein de moments d'être capable de te... C'est ton intimité qui te protège, en fait. C'est le fait que tu saches consciemment qu'il y a une différence entre la vie à l'extérieur et ton propre, ta propre personne, ton propre corps, ton propre... Quand tu n'as pas cette barrière-là, eh ben, tu peux être... tu deviens la proie, en fait, alors des charlatans qui vont te vendre des régimes incroyables en disant que ta vie sera meilleure, parce que d'un seul coup, tous les gens qui ont un avis sur ton corps et que tu vas les croire, en fait, tu vas les croire plus facilement parce que tu seras perméable. En fait, le fait de ne pas avoir de barrière va te rendre perméable à tout, en fait. Sans intimité, c'est perméable. Et ça, c'est mon avis qui est personnel, hein. Mais je pense que ça peut t'emmener dans des troubles alimentaires, dans le sens où quand tu n'as pas de barrière inconsciente, en fait, et quand tu n'as pas de conscience de ton intimité, eh ben, tu peux en créer une. Et en créer une, c'est manger beaucoup pour créer une distance, en fait. Je le prends à ma charge, hein. Je c'est pas valable pour la majorité des gens, mais je pense que c'est une explication qui est valable, selon moi.
Ouais, puis toujours, en fait, enfin, je pense que, de toute manière, je pense que tu peux mieux le dire que moi, mais je pense que oui, quand tu es grosse, au final, tout le monde a des remarques à dire sur ton corps, sur ce que tu manges, sur ta santé, enfin, c'est très intrusif, j'imagine, ouais, et violent aussi d'avoir de telles remarques, d'avoir de telles... considérations qui se veulent en plus souvent bienveillantes entre guillemets, et notamment je pense aux toutes les remarques sur la santé qui des fois partent d'une bonne intention entre guillemets, mais qui peuvent se révéler quand même assez délétères pour la personne qui reçoit toutes ces préoccupations, toute cette pression en fait, et qui en plus voilà peut aussi changer le rapport à l'alimentation, et on n'est plus maître aussi de son alimentation vu que les autres en fait ont un droit de regard sur ce que tu manges et ont un droit de regard sur un peu voilà ta morphologie et ont des préjugés aussi par rapport à toi, etc.
Exactement. La grossophobie en général, c'est violent. Et puis à l'intérieur de la grossophobie, il y a plusieurs choses. Il y a le harcèlement des gens à l'extérieur qui vont voilà, te faire des réflexions sur ton poids à l'école et tout ça. Et tu vas avoir la grossophobie, qui est la grossophobie bienveillante, qui pour moi est terrible, parce que c'est la grossophobie, tu sais, c'est une forme de... En vrai, c'est une forme de maltraitance. C'est-à-dire que quand c'est mélangé avec de l'amour ou avec des... avec un attachement, en fait, avec de l'affectif, en fait, c'est très difficile de te départir de ça. Et que quand c'est quelqu'un que tu aimes ou tu sais que d'habitude il veut ton bien et qu'il te fait des réflexions grossophobes, eh ben, c'est très difficile de repérer que ça, c'est de la grossophobie. Allez, perdre 10 kilos, tu vas voir, tu seras plus jolie. Si tu maigris un peu, on se moquera moins de toi à l'école. Ah, c'est vraiment dommage, t'as un joli visage quand c'est dit par tes parents, tes amis, ta famille. Ça s'ancre beaucoup plus à l'intérieur de toi, en fait. Et ça met beaucoup plus de temps à s'en aller. Et puis, t'as la grossophobie. Du coup, ça, cette grossophobie-là bienveillante, eh ben, elle nourrit ta grossophobie intériorisée. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur, tu peux te dire que tout ce que les gens à l'extérieur de ta famille et de ton cercle, ce qu'ils disent, tu peux te dire que c'est pas toujours la vérité. Sauf que quand c'est ta famille qui te le dit, ça a quand même un autre crédit. Et donc, d'un seul coup, tu les crois et tu te dis que c'est vrai. Donc, vu que tu commences à grandir dans ton plus jeune âge, les gens que tu crois, c'est tes parents au départ et puis c'est ta famille. Et puis donc, ce qu'ils te disent, tu le crois. Et puis, d'un seul coup, tu es persuadé que c'est vrai. Tu deviens persuadé que c'est vrai que c'est ta faute. C'est vrai que tu fais les mauvais choix. C'est vrai que tu pourrais te restreindre. C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Et ce qui fait que dès que tu te jettes dans le monde, tu pars déjà avec... t'es déjà persuadé, t'as déjà une vision assez négative de toi. Et quand la société, elle te propose des modèles qui ne te ressemblent pas, ou que la société, partout, elle te dit, si t'es gros, c'est que tu n'as pas de valeur, c'est que tu n'es pas capable, c'est que tu es fainéant, c'est que tu ne vas pas y arriver dans la vie et que tu ne mérites pas de faire partie de la société. Il y a eu le petit terreau avant de grossophobie dans ton cercle familial affectif qui fait que d'un seul coup tu vas croire tout ce que dit la société. Et là, t'as plus de rempart, t'as plus d'intimité, t'as plus de barrière pour te protéger parce que t'as pas d'intimité. Tout le monde a bien préparé le terrain en te disant qu'il faut bien croire ce qu'on te dit et qu'il faut bien être mince. Et là, tu te jettes dans le monde et la société, elle dit ça, il te reste rien en fait. T'as plus rien à quoi te raccrocher. Et ça peut, pour certaines personnes, en fonction des parcours de vie et de l'écoute et du soutien que tu as autour de toi, ça peut être dévastateur, quoi.
En plus, tu l'as vu aussi. Moi, du coup, j'ai vu ton documentaire qui était vraiment... qui est super. Je conseille à tout le monde d'aller le visionner. Mais c'est vrai qu'au final, on voyait quand même que les parcours de toutes les femmes qui étaient représentées à l'écran, vous aviez au final des choses assez similaires dans votre éducation, dans le fait d'être mise au régime, avec la fameuse courbe de poids sur le carnet de santé, etc. Et d'ailleurs, c'est hyper marquant. Je trouve, quand on regarde le documentaire, on se dit mais oui, tellement en fait.
Je pense que c'est. J'allais dire, on est le produit. Alors, on a des histoires toutes qui sont très différentes, mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le fait de se dire que on a toutes le même, la courbe de poids, donc le régime qui commence, donc en fait le conflit avec les parents, parce que le peu de temps que tu passes avec tes parents, c'est à table. Et donc, si le repas est un conflit, ça met aussi une tension dans la famille très tôt, quand ça fait des différences entre les frères et sœurs et tout. S'ils n'ont pas de problème de poids, et puis en fait, de te rendre compte que finalement, c'est comme si on avait toutes pris un chemin et qu'il n'y avait pas de possibilité d'en sortir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pointe très tôt du doigt ton poids, ensuite, tu rentres dans une espèce de rouleau compresseur qui va faire que, et c'est ce que dit très bien la psy dans le film, c'est que, en fait, ça va créer peut-être parfois la sursurveillance des blessures émotionnelles qui font que tu vas devenir une personne grosse alors que tu n'étais pas prédestinée à l'être. C'est les blessures émotionnelles, en fait, qui vont faire que tu vas rentrer dans les régimes, dans l'alimentation affective, dans l'alimentation compulsive, parce que tu vas manger, parce que tu n'as pas le droit de manger, donc tu vas te dépêcher d'aller grignoter, parce que normalement, c'est interdit. Et hop, et tu franchis, tu t'arrives avec ce fameux escalier. Et certaines d'entre nous, dont moi, je fais partie, moi, je suis devenue grosse à cause des régimes. C'est-à-dire que j'ai perdu énormément de kilos dans ma vie, pas loin de 80 en fait, à cause de régimes yo-yo où j'ai perdu plusieurs fois 20 kilos et puis tu reprends 30. Et ça, en fait, tu t'aperçois que c'est un chemin qui est fabriquée par ce qu'on appelle aujourd'hui, et ça tu dois connaître très bien, qui est la diet culture. C'est-à-dire que vraiment, l'étalon, c'est la minceur. Donc en fait, tout le monde, dès le départ, en fait, on apprend à tout le monde à être grossophobe, en fait. On apprend à tout le monde. J'allais dire, c'est presque un hasard que certaines deviennent grosses et que certains restent minces. J'entends par hasard le fait que on a toute la même éducation sur le fait qu'être gros, c'est mal. Et puis après, bah, les parcours de vie fait que certains deviennent gros et d'autres non. Mais le fait qu'il y ait ce même terreau depuis l'enfance du culte de la minceur, comme si c'était associé à la réussite de vie, et ben fait que ça donne un pouvoir supplémentaire à ceux qui sont minces parce que c'est comme s'ils avaient réussi à rester minces. Donc eux, ils ont fait les bons choix.
Oui, c'est le privilège de la minceur aussi.
Eux, ils ont réussi. Et toi, t'as pas réussi. Donc en fait, ça leur donne la permission de te stigmatiser parce que c'est comme si on avait les mêmes règles du jeu au départ et que nous, on n'avait pas réussi en fait. Et il faut faire très attention à ça parce que au-delà du fait que c'est très violent pour les personnes qui sont grosses, et on ne sait jamais pourquoi les personnes sont grosses, ça donne un espèce de... Ça nourrit la violence, quoi. Ça donne un pouvoir, un faux pouvoir de ce privilège mince parce qu'on apprend très tôt que, voilà, être mince, c'est un gage de réussite.
Et est-ce que tu l'as remarqué aussi dans les chemins des filles, du coup, dans le documentaire, par rapport à la réussite, ce côté, tout ce qui est lié à la minceur et que, du coup, ben voilà, quand on n'est pas dans ces privilèges-là de minceur, comment ça intervient dans les parcours de réussite, comment ça intervient dans la vision du succès, etc.
Bah, alors, c'est vrai que dans mon film, en fait, c'est vraiment... ce qui nous rassemble finalement, c'est d'avoir grandi avec, dans le film, je dis du plomb et des ailes. C'est-à-dire que pour nous toutes, c'était pas un sujet pour nos parents qu'on fasse des études et qu'on soit intelligente. Le sujet, il était sur le fait que si tu veux vraiment réussir, c'est-à-dire si tu veux réussir complètement, ton diplôme ne te suffit pas, ton ambition ne te suffit pas, il faut aussi être mince. Donc, ça nous a emmené chacune... avec ces mêmes règles du jeu au départ, ça nous a emmenés chacune dans des endroits différents, c'est-à-dire qu'on n'a jamais douté, on s'est inscrite à la fac, dans les domaines d'études qu'on voulait et tout. Et puis, tu vois, ça par exemple, je fais une digression, mais ça je m'en étais pas rendu compte avant le film, que j'avais pas croisé pendant mes études de droit, j'ai pas croisé une grosse dans le couloir en fait. Que, alors je te parle même pas de Lisa qui n'a pas croisé une grosse, il y avait surtout pas de grosse dans son cours pour devenir coach sportif. Lola qui est chanteuse ou Pauline qui est chanteuse pendant tous les castings qu'elle passait, elle croisait pas de grosse en fait. Donc on avait toute cette confiance dans nos capacités pour y arriver. Mais il y a des petites choses, en fait, qui te ramènent toujours au fait que tu sais que ça va être plus dur pour toi parce que t'as ce petit stress. On a tout eu cette petite angoisse de se dire « il va falloir qu'on fasse plus que les autres. Il va falloir qu'on compense, en fait. Ouais. » C'est-à-dire que, bah, ok, moi, je suis grosse, donc il va falloir que je chante beaucoup mieux. Il va falloir que je sois beaucoup plus intelligente. Il va falloir que j'ai une mention.
Ouais, faire plus de preuves, quoi.
C'est-à-dire que, en fait, tu comprends très tôt on t'apprend très tôt que si t'es grosse, t'es pas suffisante. Donc, tout ce que tu vas faire, il va falloir que tu le fasses beaucoup plus que les autres et beaucoup mieux et beaucoup plus fort parce que toi-même, t'es persuadée que t'es pas suffisante et que donc tu seras pas suffisante pour les autres. Donc, on a avancé comme ça, doucement, avec un peu de déni. Hein. Je pense qu'il y a plein de choses que je voulais pas voir. Axel, dans le film, elle dit, moi aussi, j'ai avancé avec ma réalité, quoi. Je vis dans ma propre réalité pour pas souffrir, je pense, et pour pas se décourager. Et puis, quand t'es arrivé à un endroit, à l'endroit où tu voulais arriver, et ça, c'est Matou, par exemple, dans le film, qui m'a fait prendre conscience de ça. Et ça, je l'avais pas du tout vu. Matou, elle dit, j'ai jamais fait de pire régime qu'au moment de ma plus grande réussite. Parce qu'en fait, tu te dis, vu qu'il n'y a pas de représentation de réussite comme toi autour de toi, t'envisages même pas que tu peux être une pionnière, t'envisages même pas que tu peux être un modèle. Matou, elle dit, moi, je ne connaissais pas d'autrice de bande dessinée qui cartonne et qui est grosse. Donc en fait, elle s'est dit, je vais faire un régime parce que la vraie réussite, c'est d'être mince, c'est de vendre beaucoup de livres.
Il faut être à la hauteur
de la réussite. Et là, tu te reprends le retour de bâton, tu te dis, mais en fait, putain, ce sera jamais, jamais assez. C'est-à-dire, et là, je me suis dit, mais elle a raison. Et là, j'ai refait le fil aussi un peu de ma life, comme ça, ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, en effet, les moments, j'ai perdu deux fois 20 kilos et une fois presque 30 kilos, et ben à chaque fois, c'était dans des moments où j'accédais à des endroits auxquels je voulais accéder. Et ça, c'est terrible parce que ça raconte le fait que t'es jamais débarrassé. C'est-à-dire que t'es en bataille contre toi-même, là, c'est ta grossophobie intériorisée, de se dire, en fait, ça n'est jamais assez. N'est pas qu'une histoire de réussite, de parcours, de réussite sociale, de réussite professionnelle. Là, c'est vraiment à quel endroit je décide que ça suffit, que je suis suffisante, en fait. Et donc, que j'arrête de culpabiliser.
Oui, c'est en fait avoir un autre regard sur sa propre valeur et l'estime qu'on peut porter aussi envers nous.
C'est exactement
en fait.
Ça. C'est dire que t'es suffisante, c'est dire, ok, j'estime à mes propres yeux que j'ai fait assez et que j'estime que j'ai réussi. Ça veut pas dire je m'arrête là, ça veut dire juste, je me pose et je me dis, ok, c'est bien. Et être fière de soi, quand en fait, depuis ton enfance, on t'a dit, allez, un peu plus de volonté. Allez, ça suffit pas. C'est bien, t'as perdu 5 kilos. Encore 10, tu vas voir, tu seras plus jolie. Encore une fois, c'est la petite musique qui te dit, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Et ça, tu construis pas ton estime de toi quand on te dit, c'est jamais assez. Et être capable de se rassurer soi-même, dans plein d'autres domaines, hein, là, parle du corps et du poids, mais c'est valable à plein d'autres endroits, c'est d'être capable de se dire, ok, je laisse ma culpabilité, je laisse ce regard négatif sur moi, j'accepte et j'admets que j'ai travaillé plus que les autres, j'admets que je mérite l'endroit où je suis arrivée, j'admets que j'ai plus à prouver à personne, à justifier à personne la place à laquelle j'ai accédé. Quand ça a été contrarié très tôt, c'est pas facile, mais quelle fierté, quoi. Mais ça prend, une vie.
Ouais, être gros, ça rajoute une couche de difficulté supplémentaire à quelque chose qui est déjà aussi présent dans la société, le côté capitaliste, le côté performance. Enfin, y a beaucoup de gens qui se trouvent pas assez aussi et qui sont pas forcément, c'est pas forcément lié à leur poids, etc. En plus aussi, quand on est une femme, je trouve que t'as aussi double peine, triple peine si on ajoute la grosseur. Enfin, le côté aussi, je sais pas, les femmes, on a l'impression qu'on n'est jamais assez aussi, que ce soit même lié à notre poids, mais aussi à d'autres choses, à notre identité, à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on accomplit. On dit souvent qu'une femme, elle doit faire bien plus pour arriver au même stade qu'un homme, par exemple, dans la société, soit au travail, tout ça, toutes les sphères qu'on connaît. Et du coup, oui, je pense que tu le dis aussi dans le documentaire, mais le côté femme est grosse en plus par-dessus le marché, on va dire, déjà de quelque chose qui est déjà, enfin, on a déjà des discriminations liées à notre genre. Du coup, il y a les poids qui se rajoutent aussi. Enfin, et en plus, il me semble qu'il y a aussi, je sais plus son prénom, mais dans ton documentaire aussi, qui est noir, il me semble.
C'est Axel, c'est oui, ça, non, je... la cantatrice.
Ouais. Oui, voilà. Elle reçoit, elle a aussi ça. Je veux dire, c'est quand même toute une combinaison un peu de non-privilèges qui est encore plus... qui t'handicape en plus.
Exactement. En fait, c'est vraiment la grossophobie. Ça s'intègre vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, en fait, des discriminations.
Exact.
C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la grossophobie, c'est une discrimination sexiste. Donc, en effet, quand en plus tu as une discrimination qui est liée à ta couleur ou à ton origine, plus il y a une discrimination qui est liée à l'origine sociale aussi, plus le sexisme, plus la grossophobie, plus parfois l'homophobie. Enfin, je veux dire, c'était une femme noire, lesbienne, grosse, et il y en a beaucoup, cumule des peines, en fait. Et ça ne devrait pas exister. Mais le côté, pour en revenir au côté sexiste, enfin, en tout cas, le fait que ce soit sexiste et grossophobe, il y a très peu de chiffres qui existent aujourd'hui. Il y a très peu de mesures, de toute façon, qui est liée à la discrimination et à la grossophobie. C'est des études dans lesquelles on n'a pas beaucoup d'argent. Difficile de quantifier aussi. Mais on sait, il y a eu une étude qui a été faite sur la discrimination au travail. Et en fait, on sait que les femmes grosses, elles sont discriminées beaucoup plus tôt que les hommes gros. par rapport à leur poids. C'est-à-dire que tu sais, l'OMS, en fait, alors moi, je ne suis pas complètement d'accord avec l'utilisation de l'IMC, le calcul de l'IMC, mais ça, c'est, voilà, encore une fois, c'est assez personnel. Ouais. Mais en tout cas, il y a une discrimination, il y a comment dire, une échelle qui parle de surpoids. Tu commences au surpoids, l'IMC du surpoids, jusqu'à l'obésité morbide. Et en fait, on sait aujourd'hui que dans le monde du travail, les femmes, elles commencent à être discriminées à l'embauche à partir du surpoids. Alors que les hommes, ils commencent à être discriminés à l'embauche à partir de l'obésité sévère. En fait, il y a toute une partie en fait, qui représente quand même, je dirais, une trentaine, une quarantaine de kilos, qui bah, ne discrimine pas les hommes, mais discrimine les femmes. Donc,
oui, c'est ça.
Voilà, ça, j'allais dire, c'est l'étude la plus solide qu'on ait par rapport au monde du travail. Et finalement, on sait qu'une femme grosse, elle est 8 fois plus discriminée qu'une femme normée à l'embauche. Une femme racisée, 4 fois plus discriminée qu'une femme, j'allais dire, non racisée. Et une femme grosse, 8 fois plus qu'une femme normée. Donc, c'est vraiment édifiant, quoi.
Ouais, c'est clair.
Donc, ça, et on...
Et c'est vrai que, enfin, faut que l'homme soit très gros pour qu'il y ait une discrimination à l'embauche comparé aux femmes. Enfin, c'est assez, ça révèle bien la pression de la minceur qui est quand même plus présente contre les femmes, je dirais, envers les femmes que les hommes, que, voilà, on autorise plus un homme à être plus gros et on va moins le discriminer tout de suite.
Exactement. Et en fait, ça, on le retrouve même, j'allais dire, dans le langage, dans la sémantique. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas parler d'un homme gros, tu vas dire qu'il est fort, qu'il est costaud, qui est balèze,
qui mange bien, enfin qui
exactement,
prend du plaisir,
mais tu vois, fort,
un peu plus,
exactement,
plus que rien,
mais fort, costaud, balèze, j'allais dire, c'est des adjectifs qui sont valorisants pour un homme parce que ça traduit la force, en fait.
Oui.
Donc c'est comme si ça atténuait la description grossophobe. En revanche, quand tu dis qu'une femme elle est costaude, elle est forte, elle est balèze, et ben ça rajoute de la discrimination. Tu vois ce que je veux dire? Donc à cet endroit-là.
Oui, parce que c'est associé à la virilité.
Exactement.
Aussi, le côté, donc c'est valorisé pour les hommes, alors qu'une femme qui est forte, costaude, on va dire, bah non, en fait, qu'est-ce que tu fais?
Exactement, pas... ça va lui enlever encore plus de féminité. Déjà, elle est grosse, mais en plus, si elle est balèze, costaude et ou forte, en plus, ça va la déféminiser encore plus. Et voilà, c'est des détails, mais en fait, c'est des choses qui sont très importantes. Ça a l'air de détail, mais c'est très important.
Ouais. Après, on revient aussi aux questions de représentation, même dans le milieu sportif, etc. On voit toujours des athlètes d'une certaine façon, très, très minces, etc. Alors qu'au final, enfin, peut être musclé et être plus gros. Enfin, je trouve ça assez important aussi de s'intéresser à cette vision-là aussi du côté d'être fort aussi. Enfin, je dirais qu'il y a aussi le côté femme qui fait que quand on est une femme, bah, on doit pas montrer qu'on est musclé, etc. Et encore moins d'avoir du volume aussi. Donc c'est rattaché, je trouve, aux représentations du sport qui sont assez très encore dans la minceur et qui prennent pas en compte qu'on peut très bien être athlète et gros et voilà, et être performant. Tout autant.
Bah, c'est exactement ça. Et en fait, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait de toi que tu es une femme, dans le sens où qui détermine en fait ce qui est esthétique, qui fait de toi que tu es féminine ou pas. Et en fait, à partir du moment où la majorité des représentations dans la société, elle te dit que une femme belle qui est en réussite, c'est une femme mince, ferme, mais pas trop musclée, qui a le cheveu lisse, mais pas trop, qui a un poste à responsabilité, mais quand même qui a 4 enfants, tu vois, et qui... C'est une somme d'injonctions contradictoires, en fait, qui essaye de te pousser vers un idéal, qui est complètement marketing, hein, parce qu'en fait, on sait très bien qu'à partir du moment où on crée des idéaux inaccessibles, en fait, c'est un chemin... intarissable de tentatives, de régimes, de soins, de...
Ouais, de sous-dépenser, d'énergie.
Exactement. Et qui marche complètement sur le libre arbitre des femmes, la volonté des femmes, la sensation d'être des femmes, parce que tu vois, quand tu penses toujours à cette petite barrière-là, si t'es pas assez mince, claque, quelqu'un te dit, passe à travers ta barrière de t'es pas assez mince, t'es pas assez féminine, t'es trop musclée, et c'est comme si, en fait, parler de ça, ça me révolte un peu parce que Tu sais, c'est un peu comme les vêtements quand tu vas dans un magasin et qu'un jean te va pas et que d'un seul coup, la terre, elle s'ouvre sous ses pieds en disant putain, mais pardon, parce que je suis en colère donc je parle mal, mais tu te dis putain, j'ai pas de valeur parce que je rentre pas dans ce jean. Et en fait, ce truc-là de déléguer en fait ton bien-être, ta sensation d'être à Monsieur Zara, à L'Oréal, c'est-à-dire qu'ils aient le pouvoir de c'est comme s'ils avaient le pouvoir de déterminer la valeur que tu as, et c'est inscrit à l'intérieur de toi juste parce que tu ne rentres pas dans leurs critères. Et ça en vrai, ça me...
Ouais, il y a un échelon, quoi.
Exactement.
C'est un échelon de notre valeur extérieure à nous.
Enfin, on leur a filé les clés. Dingue, ouais. C'est-à-dire que tu vas super bien, voilà, tu te balades avec tes potes et tout, tu te dis je vais aller m'acheter un jean, et ça c'est valable que tu fasses du 52 ou que tu fasses du 38. Hein. Tu vas te balader avec tes potes, machin, tu te dis je veux un jean, je rentre chez Zara, tu rentres pas dans le 38 de Zara. Je sais pas pourquoi, ça se trouve le jean il n'est pas coupé pour toi, ils ont baissé les tailles il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Tu sors du truc, t'es déprimé comme jamais, tu veux rentrer chez toi, tu t'es persuadé en fait que tu n'es qu'une merde, et qu'est-ce que tu vas faire? Premier truc que tu vas faire, le lendemain, bah, tu vas te reprendre en main et tu vas te mettre à te priver de nourriture en te disant « bah ok, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je vais chez Zara et je vais rentrer dans ce 38 ». Mais
c'est
pourquoi faire en fait? Alors ça, c'est un petit détail, mais parfois ça peut être un truc... plus profond, tu sais jamais sur quoi ça appuie en fait, et de se dire qu'en fait on a délégué notre valeur à des géants du marketing qui ont créé un problème pour ensuite te proposer la solution. Pour moi, c'est très grave parce que ça t'éloigne en fait encore une fois de ta sensation d'être, et que finalement tu sais plus écouter ton corps en fait, tu sais plus s'il y a des choses, tu sais plus ce que tu dois écouter à l'intérieur de toi en fait, si c'est la minceur absolue, et c'est ça qui va faire que tu vas te sentir bien et que tu vas être en bonne santé. Parfois, non. C'est-à-dire que tu as beaucoup de femmes aussi qui sont minces et qui sont persuadées que le fait d'être mince, elles sont en bonne santé. Elles ont complètement aussi anesthésié leur façon d'écouter leur corps, parce que c'est brutal, en fait, d'être au régime tout le temps et que, du coup, leur sensation d'être, elle est aussi complètement anesthésiée. Et pour les personnes grosses, eh ben, c'est exactement la même chose. C'est que finalement, ton objectif, c'est de te dire... t'es mince, donc t'es en bonne santé, donc l'objectif c'est la minceur, et t'écoutes plus du tout ce que ton corps te raconte en fait.
Ouais, et carrément. On est coupé.
Exactement.
De notre
corps, et c'est ça qui peut faire que tu peux aussi, que tu sois gros, que tu sois mince, en fait, passer à côté de choses qui sont très importantes, qui concernent ta santé, parce qu'en fait, le focus, il est sur la minceur égale bonne santé, et que tu n'écoutes plus du tout ce que ton corps te raconte. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais.
Ouais, bien sûr, oui. Puis en plus, il y a ce côté que, comme on réduit la santé au poids, bah forcément, il y a plein de choses qui sont occultées, comme tu dis, et en plus de ça, enfin, au final, on adopte des comportements qui vont à l'encontre de notre santé, dont les restrictions, dont le stress aussi, l'anxiété que ça peut créer, la charge mentale liée au régime, mais aussi au fait d'être, de conserver le poids. Je sais que même quelqu'un qui est mince, il va avoir toujours une épée de Damoclès de et si je grossis, va tout faire pour va avoir une peur intense de grossir, mais qui est une phobie sociale, comme tu l'avais bien expliqué dans le documentaire, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'au final qui nous éloigne d'une santé et aussi d'un bien-être et d'un stress réduit et de vivre aussi, parce qu'on passe à côté de notre vie aussi.
Exactement. Tout ça, quoi. Et puis voilà, de te dire, il faut en finir avec cette histoire de corps de l'échec en fait. Qui a déterminé que si tu n'avais pas un corps mince et parfait, t'étais prédestiné à l'échec? Après, le mec qui a inventé ça, c'est un génie. Hein. il a inventé le business infini. Mais
c'est ça, c'est exactement. Bah, c'est des insécurités que la société nous crée et qui nourrissent toute leur. ça fait très anticapitaliste, mais c'est un peu ça, quoi. Il y a toujours ce côté, toute cette machine à faire du fric.
Exactement.
Qui est derrière aussi, quoi.
Mais ça, c'est vraiment un truc. Pendant le documentaire, en fait, j'ai travaillé avec un sociologue qui s'appelle Jean-Pierre Poulain, et il m'a expliqué un truc vraiment intéressant sur le fait que la grossophobie, c'est aussi une discrimination qui est sociale. En fait, il y a très peu de personnes grosses, en fait. En haut de l'échelle sociale, ça représente à peu près seulement 7% des cadres sont en surpoids, alors que plus de 60% dans la classe, ce qu'on appelle classe moyenne ou CSP-. Et en fait, derrière le fait d'avoir peur ce que ça raconte, en fait, le fait d'avoir peur de grossir, c'est que derrière le fait d'avoir peur de grossir, il y a le fait d'avoir peur d'être déclassé, en fait. Mais ça marche, en fait, c'est le double ascenseur, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, une personne qui a un poste à responsabilité, elle va se dire, si je grossis, je vais être déclassée. Et une personne qui appartient à une classe sociale, alors, inférieure, ce sont les termes sociologiques. Mais on te promet, en fait, que si tu fais un régime, tu vas monter dans l'échelle sociale. Donc, en fait, ça reste, il y a une pression, la pression de la minceur, elle cache aussi une hiérarchie sociale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce truc d'appartenance à l'élite. Si tu es mince, tu peux rentrer dans le club de l'élite.
Exact.
Et ça, c'est un miroir aux alouettes qui est cynique et encore une fois, qui profite à nos amis du marketing.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, même on le voit en politique, etc. Enfin, je trouve que la minceur, ça montre que, je sais pas, tu te traduis une certaine performance vis-à-vis de ton corps, tu sais te contrôler, entre guillemets, que tu... Enfin, il y a tous ces clichés-là qui sont associés et qui font que, bah voilà, on a aucune représentation, de toute façon, de personnes plus grosses, plus on monte aussi, plus c'est... Il suffit de voir aussi même tout ce qui est le star system, etc. Ouais. Enfin, c'est... Eux, c'est... l'idéologie de la minceur, mais elle est énorme, et c'est eux aussi, ils subissent aussi une pression énorme par rapport à ça, mais c'est, en fait, quand on voit toutes les strates, en fait, de sociales, on se dit où sont les gros, et on très bien imaginer pourquoi aussi il y a ce manque de personnes grosses, quoi.
Il n'y a pas de représentation. Donc, s'il n'y a pas de représentation dans l'espace public, tu te dis que, en effet, ça conforte, en fait, ce qu'on t'a appris très tôt, c'est-à-dire que si tu restes gros, tu n'y arriveras pas. Regarde la preuve, cite-moi un gros qui a réussi, t'en vois nulle part. En tout cas, un gros qui est visible, on n'en voit pas, donc maigri. Et puis, il y a le deuxième truc qui est pervers, c'est-à-dire que ça n'est pas que de la discrimination, c'est le fait que tu t'auto-censures aussi. C'est que tu as beaucoup de personnes... Ouais.
Oui, sûr.
On leur a tellement dit que toi, tu restes bien dans la salle d'attente en attendant d'être mince et tu pourras sortir de la salle d'attente quand tu auras minci. Donc, tu pourras faire les études que tu veux quand tu auras minci. Tu pourras accéder au boulot que tu veux quand tu auras minci ou devenir comédienne ou chanteuse ou ce que tu veux. Et ben, fait que tu ne tentes même pas, en fait. Le chemin, il n'a pas été tracé. Tu dis, j'y vais pas. Et en fait, c'est le cercle vicieux. Et encore une fois, c'est pour ça que c'était très important pour moi de faire ce documentaire avec ces femmes, en fait, qui étaient arrivées à des endroits où d'habitude on ne voit pas de femmes grosses. C'est parce que il faut absolument créer des représentations. Là où il y a une image, il y a un chemin. Ça, vraiment, c'est moi, je viens de l'image. C'est vraiment très important, en fait, de montrer ça, en fait. C'est ce qui va créer des ambitions, c'est ce qui va aussi tuer un peu les clichés de quand t'es gros, t'es pas sportif, de quand t'es gros, tu n'es pas créatif, quand tu n'es gros, tu n'as pas le sens de l'esthétique. L'autre jour, j'entendais une endocrinologue qui disait, sur un média très connu, qui disait « Oui, les personnes grosses, elles voient pas correctement leur assiette, elles ont une vision biaisée de
leur... » Oui, ils l'ont retiré, ça c'est Fresh qui avait fait un truc sur ça. En plus, t'es en partenariat avec Novo Nordisk,
oui,
etc.
C'est un autre débat, c'est le laboratoire qui essaye d'infiltrer... ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent d'infiltrer tous les médias féministes. Et ils n'essayent pas d'aller sur Combini ou Brut, hein. Ils vont sur... Il y avait eu le truc de Paulette, ils vont sur Fresh. Ils essayent par des biais détournés d'aller sur des médias féministes, et ça raconte bien ce truc de sexisme aussi, de la grossophobie, c'est qu'ils vont à l'endroit du marché, en fait. Ouais. Et le marché, c'est les femmes. Tu vois pas ton assiette. Enfin, t'imagines le niveau d'infantilisation, en fait. Parce qu'il faut savoir que les gros, les gros, on les infantilise forcément, parce que vu qu'ils sont déjà pas capables de se restreindre, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. Forcément, il faut leur parler comme à des enfants. Donc, il y a des enfants qui ne sont même pas capables de voir ce qu'il y a dans leur assiette, en fait. C'est quelqu'un qui a un cabinet, qui a un agenda blindé, qui voit des patients toute la journée. Et je me dis, ça, c'est un vrai problème. Que les clichés aillent jusque dans le milieu médical, c'est très grave.
Ouais, j'ai l'impression qu'ils viennent beaucoup au final de quand même de cette sphère-là. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le sujet de ton prochain.
Alors, j'ai pas trop le droit d'en parler.
Ah, tu vois, la transition.
J'ai pas trop le droit d'en parler, mais en tout cas, okay. Je peux parler de grossophobie médicale, je peux pas te parler du cœur de ce que je suis en train d'écrire, mais en fait, le truc de du fait d'associer en fait la minceur à la bonne santé. C'est vraiment quelque chose qui nourrit la grossophobie médicale. Et moi, j'en fais partie, hein, je l'ai vécu à plein de reprises, mais 99% des personnes qui sont en surpoids, je te dis même pas en situation d'obésité, je parle en surpoids, a vécu une situation de grossophobie médicale dans un cabinet. C'est-à-dire, tu rentres, tu as une otite, bah d'abord, on va te demander de te peser. Tu dis que tu as mal au dos. Et ben on va d'abord te dire, perdez du poids, vous verrez, vous aurez mal au dos. Et en fait, ça, c'est assez... J'allais dire, c'est un des aspects de la grossophobie qui pour moi, est très grave, parce que ça, ça n'a qu'une conséquence, c'est en tout cas la conséquence principale, c'est l'évitement des soins de santé. On parlait déjà tout à l'heure qu'on peut être complètement dissocié de son corps, c'est-à-dire ne pas écouter les bonnes choses, c'est-à-dire être focus sur un régime et ne pas écouter bien ce qu'on ressent, ou ne pas savoir ce que ton corps te raconte. Mais en plus, en fait, quand t'es habitué à déléguer les clés de ta sensation d'être à ton coach, à la publicité, à ton médecin,
ouais, le médecin,
il sait mieux que toi si quand t'as mal au dos, c'est parce que t'es trop grosse ou pas, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, je sais, si j'ai mal au dos, je sais quand c'est mon poids et je sais quand ça n'est pas mon poids. Et en fait, les personnes grosses, elles ont beaucoup de mal à dépasser leur culpabilité et donc à dire au médecin, non, je vous assure que en fait, c'est pas à cause de mon poids que j'ai mal au dos.
Il y a tout aussi l'autorité du médecin qui fait qu'on a du mal à remettre en question, enfin, ce qu'ils nous disent ou à peut-être, voilà, on a du mal à se dire, bah peut-être que ils se trompent en fait aussi. Et en plus, j'imagine que quand on est gros, on a toujours aussi, enfin, on a toujours été élevé aussi avec le côté que tout le monde dit ce qu'on doit faire. Donc, je pense qu'il doit aussi avoir ça qui joue, mais. C'est difficile de remettre en question, du coup, la parole du médecin.
En tout cas, il y a plein de trucs cumulés. Il y a l'autorité du médecin, je crois que ça, c'est valable pour n'importe qui dans la population, le fait que le médecin, c'est le sachant et que quand tu vas le voir, bah, tu le crois, a priori. Il y a le fait que bah, il y a ta culpabilité personnelle, c'est-à-dire que depuis toujours, t'entends que c'est de ta faute si t'es grosse, donc bah, faut en assumer les conséquences. Donc, si le médecin te dit que si tu ressens ça, c'est parce que t'es grosse, bah, tu le crois encore plus. Parce que tu culpabilises, mais la difficulté, en fait, encore une fois, c'est que cette attitude-là de non-écoute des personnes grosses, en fait, ça génère un évitement des soins de santé. C'est-à-dire que les médecins, ils ne se rendent pas compte, j'allais dire les médecins, mais c'est pas que les médecins, c'est le personnel, c'est valable pour le kiné, les sages-femmes, enfin tout le personnel médical et paramédical. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens, ils ne se rendent pas compte que quand une personne grosse arrive dans leur cabinet, ils ne se rendent pas compte du parcours déjà qu'il a fallu pour qu'ils arrivent dans le cabinet. Et s'ils y arrivent, c'est parce que soit ils sont à un stade très avancé, en fait, de la douleur ou de leur maladie, ou c'est qu'ils ont dépassé, en fait, leur propre sentiment de honte ou de culpabilité pour avoir le courage, en fait, d'arriver devant un professionnel pour prendre soin de lui. Donc, c'est que déjà, il a fait une démarche. Donc, en fait, quand tu rentres chez le médecin ou chez le kiné et que la première chose qu'on te dit, c'est monter sur la balance pour te culpabiliser, eh ben, en fait, ça ne prend absolument pas en considération tous les efforts que tu as fait avant pour arriver sur cette balance. Ben, la personne va venir, elle va le faire une fois et puis elle ne reviendra pas. Et ça, c'est très grave parce qu'en fait, même quand tu fais les démarches pour essayer d'y arriver, t'es stoppé en fait dans ton élan et tu n'y retournes pas parce qu'on t'a dit que avant de te soigner, il fallait d'abord maigrir. Et ça fait qu'en fait, alors je dis les femmes parce que, encore une fois, là, il y a une intersectionnalité de discrimination, c'est-à-dire que c'est le cumul des peines. Déjà, les femmes, elles prennent moins soin d'elles par rapport à leur santé, mais en plus, les femmes grosses, c'est pire, et que bah, tu vas te retrouver avec des personnes grosses qui laissent complètement leur santé et leur corps de côté et qui vont se retrouver, qui vont mourir, parfois, quand tu vois, en ce qui concerne les cancers ou des maladies très graves, mais elles ne vont pas forcément mourir de comorbidité liée à l'obésité, elles vont mourir d'évitement de soins de santé. Et ça, je trouve qu'il y a un immense chemin à faire. Mon discours, il n'est pas du tout... moi, je nie pas du tout les comorbidités qui peuvent être liées à l'obésité. Hein. C'est absolument pas ce que je suis en train de faire. En revanche, j'ai dit juste que pour éviter d'arriver à des niveaux d'obésité où il y a des comorbidités, ou pour bien prendre en charge les comorbidités, il faut arrêter de culpabiliser les patients gros, parce que sinon, ils ne reviendront jamais dans le cabinet. Voilà. Et donc, il y aura encore moins de possibilités de les soigner.
Ouais, on passe vraiment à côté de diagnostics et de maladies, ouais. Carrément. Enfin, à cause de la grossophobie, ouais. Médicale, en, ouais. Fait. C'est aussi... C'est très injuste, enfin, c'est révoltant, en fait. Enfin, je trouve tout ce truc-là.
Bah, c'est proche de la grossophobie médicale, c'est proche de la grossophobie bienveillante de la famille, en fait. C'est-à-dire que derrière l'idée de prendre soin de toi, il y a quelque chose qui te culpabilise encore plus et qui te rappelle encore que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire ou que tu dois avoir honte de ton attitude, en fait, de ton comportement. Et tant qu'on considérera que l'obésité, c'est un mode de vie, que tu as choisi d'être gros et qu'il suffit que tu arrêtes de manger ou que tu fasses plus de sport pour arrêter d'être gros, tant que tout le monde, ouais. Dont le milieu médical, continuera à penser ça, la situation ne se réglera pas et il y aura toujours des personnes en surpoids qui seront harcelées ou qui éviteront de se soigner correctement. C'est très important pour moi de parler de grossophobie dans tous les domaines, mais une grande partie de mon travail, en fait, il est dirigé vers le fait de donner des outils aux personnes grosses. C'est-à-dire que dans la société, même les personnes grosses, elles peuvent être grossophobes, elles sont grossophobes envers elles-mêmes. Et moi, avec Lola à la grosse asso, on a tendance à se dire un truc qui est important. C'est Lola qui m'a dit ça une fois. Elle me dit, mais tu sais, les gens, il faut leur donner le bénéfice du doute. On a tellement grandi dans cette diet culture qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont grossophobes sans le savoir, même des personnes grosses. Et,
Tout à fait. Et
donc, il y a un travail, évidemment, d'éducation à faire dans la société pour réussir à débusquer toutes ces formes de grossophobie. Mais moi, mon travail personnel en tant que femme grosse et en tant que journaliste, il est de donner des outils aux personnes grosses. C'est-à-dire toutes les choses, tous les outils de discernement, de confiance en soi, d'estime de soi, de clarté, en fait, des choses qu'on leur propose. C'est-à-dire que le marketing, il est tellement puissant parfois, il est tellement culpabilisant, il est tellement insidieux qu'en fait, décortiquer en fait ce que ce marketing raconte et ce qu'il raconte spécifiquement aux personnes grosses, faut du temps, il faut du travail, il faut de l'enquête parfois pour le clarifier et le rendre accessible. Et tout mon travail de journaliste, il est dirigé vers ça, c'est-à-dire de se dire bon bah ok, peut-être que la société elle va rester complètement grossophobe, on va pas tuer le marketing, mais en revanche je peux peut-être aider des personnes grosses à voir à quels endroits, en fait, à quels endroits elles peuvent agir, à quels endroits elles peuvent se rebeller, à quels endroits elles peuvent trouver de l'estime un peu plus d'elles-mêmes dans des choses qui a abîmé leur estime d'elles alors que ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Donc, ce livre-là et ce livre sur la grossophobie médicale, il contribue à ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est de donner des outils.
Du coup, c'est quoi la mission derrière la grosse asso? Qu'est-ce que vous faites? Et du coup, à travers quels moyens, en fait, vous donnez des outils, justement?
Alors, en fait, la grosse asso, on fait des... L'idée, c'est de faire des interventions de sensibilisation à la grossophobie dans tous les endroits où la grossophobie peut être présente. Donc, à l'école, on commence à l'école maternelle, primaire, collège, lycée, et même à la fac. Dans les entreprises. Et puis aussi, on aimerait bien dans les lieux de formation des soignants, pour leur expliquer un petit peu, leur faire remonter aussi tous les témoignages que l'on a des personnes qui ont subi de la grossophobie médicale. Donc voilà, l'idée première de la grosse asso, c'est vraiment ça, c'est la sensibilisation à la grossophobie dans les lieux où la grossophobie est présente. Et puis après, il y a des petites choses qu'on fait à côté, comme par exemple ce qu'on organise là prochainement, on organise le premier salon de la mode éthique grande taille, parce que quand on parlait tout à l'heure de cumul des peines, en fait, le vêtement, c'est un des endroits où les personnes grosses, le prêt-à-porter, en fait, c'est un des endroits où les personnes grosses sont les plus discriminées et doublement discriminées parce que soit elles trouvent, majoritairement, on ne trouve pas de fringues, et la majorité des fringues qu'on trouve en plus de 44, c'est de la fast fashion. Et notre idée, en fait, c'était de mettre en avant des marques qui produisent avec des tissus de qualité, de façon raisonnée, pour faire une proposition, en fait, aux personnes grosses d'alternative, en fait, à la fast fashion. Et derrière un vêtement de qualité, il y a une façon de se donner de la valeur aussi, à soi-même. Donc voilà, c'est des événements qui sont ponctuels. On a d'autres projets. On voudrait aller plus vers les groupes de parole. Mais ça, il faut du temps, il faut des bras. Notre asso, elle a un an. Donc,
Et si on veut être bénévole, d'ailleurs, dans cet asso?
Alors, il faut nous contacter soit sur notre adresse mail, qui est contact@lagrosseasso.org, voilà, en mettant en intitulé proposition de bénévolat, ou sur notre Instagram, @lagrosseasso. Nous, on prend tous les bras, toutes les compétences, on cherche des graphistes, des webmasters, des profs, des médecins, enfin des gens qui, voilà, on prend toutes les compétences parce que l'idée, c'est aussi de développer plus de contenu pour permettre la sensibilisation et que, on n'est pas experte en tout. Donc, en fait, proposition de compétences est la bienvenue.
Super. Bah, merci Anine. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à dire à mon audience, aux auditeurs qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a un message que tu voulais faire passer?
Il y a plein de messages que j'aurais envie de faire passer, mais s'il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est les enfants. J'aurais plutôt tendance à m'adresser aux parents, pour le coup, qui ont des enfants et des petits. C'est très important de dire aux enfants qu'ils peuvent tout faire, qu'ils sont beaux comme ils sont. Ça ne veut pas dire ne pas surveiller l'alimentation ou savoir comment ils vont, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, ne pas les faire très tôt culpabiliser sur ce qu'ils mangent. Et voilà, et leur dire qu'ils peuvent tout réussir et qu'ils ne sont pas un corps, qu'un corps en tout cas. Et c'est important d'être de leur côté. C'est un investissement immense pour la suite et pour leur estime d'eux-mêmes. Voilà.
Super, c'est sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Aline, d'avoir accepté mon invitation. Et puis peut-être à bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup, Juliette.
J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, The Last Quiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao !